Bonsoir. Près d'une année après la débâcle des armées dans l'est de la RDC, dont le M23, certaines zones jadis occupées par les groupes armés connaissent une certaine stabilité. Le chef de la MONUSCO et quelques diplomates occidentaux se sont rendus la semaine dernière dans ces zones appelées îlots de stabilité. Objectif, évaluer les progrès réalisés dans ces zones après les conflits armés. Comment analyser cette démarche visant à stabiliser ces zones? Nous en parlons avec M. Rey Torres, et le chef des bureaux MONUSCO au Nord Kivu. Bonsoir M. Rey Torres.
Bonsoir.
Julien Paloukou est le gouverneur de la province du Nord Kivu. Bonsoir M. le gouverneur Julien Paloukou.
Oui, bonsoir à tous les autres de la radio Capi.
Et Jason Luneno, député national, élu du territoire de Walikale au Nord Kivu et cadre du parti politique Union pour la Nation Congolaise, UNC. Il a fait partie de la caravane d'épée dans cette province. Bonsoir Jason Luneno.
Bonsoir, je salue le gouverneur de province et tous les autres qui me suivent sur Radio Cap. Je suis plutôt élu de Gaumont.
Merci, bienvenue à tous dans cette émission.
Pour participer à l'émission, appelez le 081 051 66 78 ou contactez-nous par SMS 081 051 57 78 ou par mail dec@radiocapi.net.
Le chef de la MONUSCO et ses accompagnateurs, notamment l'ambassadeur des États-Unis en RDC, ont visité la semaine dernière l'est du pays, y compris le Nord Kivu. Ils se sont rendus dans ce qu'on appelle l'îlot de stabilité dans cette partie du pays. Alors, pour éclairer ce concept, mais également pour en faire un premier bilan provisoire à ce stade, nous recevons Dona Madimba, notre envoyé spécial dans ces convois consacrés aux îlots de stabilité. Bonsoir Dona Madimba.
Bonsoir Guy Maté.
Voilà, vous avez fait partie de ces convois. Comment expliquez-vous ces concepts îlots de stabilité?
Rien de vraiment compliqué, Guy Maté. Le concept îlot de stabilité doit être simple à comprendre, aussi simple que les mots qui le composent. Il s'agit des zones autrefois occupées par des rébellions ou encore des groupes armés écumant la République démocratique du Congo. C'est par exemple Goma, Matisi, Rutshuru, Walikale, Sangé, Beni, Kalemi, Manono. Ces zones sont aujourd'hui pour la plupart débarrassées de ces organisations nocives et désormais recontrôlées par le gouvernement ou encore en vue de l'être. Eh bien, la MONUSCO et le gouvernement se sont mis d'accord pour y instaurer la paix intégrale, détraumatiser ces zones et y rétablir les structures et les mécanismes pour leur développement. Aujourd'hui, ce processus est déjà en place et certaines zones acquièrent petit à petit ce statut d'îlot de stabilité et peuvent donc ainsi à nouveau se remettre sur la voie du développement.
Et à ce jour, pouvons-nous avoir une idée de ces quelques zones en RDC ayant déjà acquis ces statuts d'îlots de stabilité?
À ce jour, Rutshuru et Walikale sont brandis par la MONUSCO et le gouvernement comme modèle de ce processus, donc comme modèle d'îlot de stabilité. Comme je le disais donc tantôt, îlot de stabilité pour dire zone désormais stable. Ces zones peuvent être assez réduites, d'où le vocabulaire îlot, petite île donc. Et stabilité parce que pour ces deux endroits cités par exemple, Rutshuru et Walikale, les rebelles, ils sont désormais presque exterminés ou encore en voie de l'être. Et pour avoir été notamment à Rutshuru, j'ai pu constater que la vie normale est presque intégralement revenue et le développement bien relancé.
Et Dona Madimba, vous dites presque, cela veut dire quoi? Qu'il y a d'autres ambitions qui n'ont pas encore été concrétisées?
Non, pas forcément. Je vais vous dire, hein, à Rutshuru, il y a presque tout qui est remis en place. Les populations sont de retour chez elles, les travaux champêtres sont repris, le commerce aussi, l'administration et les forces de l'ordre sont en place. À Walikale, presque la même chose aussi, mais dans les deux cas, l'intégralité de l'autorité de l'État doit encore y être consolidée, car de petits groupes résiduels apparaissent de temps en temps avec quelques gestes de banditisme, mais sans véritable remise en cause de la paix désormais en cours d'instauration, même par la force, car, notez bien, l'armée et les forces onusiennes veillent au grain et mènent des opérations régulières de traque contre ces malfrats.
Merci Dona Madimba.
Merci, c'était avec plaisir Guy Maté.
Rey Torres, je rappelle que vous êtes chef de bureau MONUSCO au Nord Kivu, îlot de stabilité, zone qui jadis avait connu des conflits et aujourd'hui qui semble stabilisée. Nous l'avons suivi dans ces reportages de Dona Madimba. Y a-t-il d'autres aspects qui n'ont pas été évoqués dans ces reportages et qui peuvent expliquer ces concepts îlot de stabilité?
Oui, je pense qu'il serait peut-être bon de rajouter que le travail de la MONUSCO est en fait un appui aux efforts qui sont faits par le gouvernement de la province du Nord Kivu. C'est notre devoir, mais c'est aussi notre intention de nous focaliser sur ce qui est perçu comme prioritaire pour les Nord-Kivuciens. Et parmi ces priorités, il y a évidemment des choses qui ne pourront pas nécessairement être résolues par le soutien de la MONUSCO, parce qu'il s'agit de projets à plus long terme, comme par exemple la construction, la reconstruction de routes. Mais dans le domaine de ce que la MONUSCO peut faire, je pense que ce que nous voulons souligner, ce sont les efforts pour restaurer l'autorité de l'État dans tous les sens du terme. Donc évidemment, comme l'a signalé votre collègue de Radio Okapi, il s'agit en premier lieu de l'ordre public, donc de l'autorité de la FARDC, de la police nationale congolaise. J'aimerais souligner que c'est quelque chose qui nous a très positivement et fortement marqué, que dès que le territoire de Rutshuru a été libéré, le gouverneur de la province a immédiatement dépêché son représentant à Rutshuru et à Kiwanja. Donc l'autorité de l'État était immédiatement présente et que très très rapidement la PNC a déployé des centaines de policiers, qui est évidemment quelque chose de très très important, et bien au-delà du symbole de la présence physique de policiers, c'est le fait de rassurer les policiers qu'il y a un bénéfice direct, visible, immédiat au départ des groupes armés et au retour de l'autorité de l'État.
Oui, îlot de stabilité, comment est né ce concept?
Ce concept est né de la volonté de la MONUSCO d'intensifier ses activités immédiatement après le départ d'un groupe armé d'un territoire donné. Ce départ peut être dû à une intervention militaire des FARDC avec le soutien de MONUSCO, mais il peut aussi être dû à une entente, un accord, donc sans besoin d'intervention militaire, entre deux parties. Par exemple, c'est en fait l'origine de la première action de ce type, suite à l'acte d'engagement qui avait été signé entre les Maïmaï Kifafu et les Raya Mutomboki dans le territoire de Walikale, un acte d'engagement qui avait été soutenu par les autorités locales, mais qui avait été initié par le père Arsène de l'Église catholique, qui avait pris cette initiative. Donc nous voulions immédiatement faire acte de présence en soutien au gouvernement de la province. Nous pensons que c'est la moindre des choses. Et le faire rapidement, de façon très simple, mais très effective. Par exemple, fournir un appui logistique pour aider au redéploiement de la PNC. Par exemple, fournir le plus rapidement possible une formation aux agents de la police nationale. Ou, par exemple, aider les administrateurs de territoire à s'assurer que tous les agents de l'État dans ces territoires aient les connaissances, les aptitudes nécessaires afin de pouvoir mener à bien, fournir le service public dans leur domaine. Donc des choses très très concrètes, pas très compliqué, mais nous aimons à croire que c'est quelque chose, un appui très important et stratégique, je dirais.
Monsieur Torres, à part l'instauration de l'autorité de l'État, quels sont les autres objectifs poursuivis à travers cette démarche îlot de stabilité?
Nous voyons les îlots de stabilité comme véritablement quelque chose qui est le début d'un processus à beaucoup plus long terme. Comme vous le savez, la MONUSCO n'est pas une agence de développement. Donc nous ne faisons pas de projets d'éducation, nous ne faisons pas de projets de santé. Nous ne faisons pas tellement d'activités qui sont nécessaires au retour de la normalité, si j'ose dire, hein, dans ces territoires libérés de la présence des groupes armés. Donc nous voulons ouvrir le chemin, nous voulons être les premiers à arriver. On soutient au gouverneur, on soutient au gouvernement de la province, mais il faut que bien d'autres agents viennent et fassent leur travail et recommencent leurs activités. Je veux évidemment parler des ONG, des agences de développement, mais du secteur privé. C'est-à-dire que c'est le commerce, c'est l'industrie, c'est l'agriculture, c'est les mines, tous ces agents économiques qui vont aider à véritablement faire relancer la machine et revenir à quelque chose qui serait le début d'un développement qui, nous sommes sûrs, sera très prospère, très rapide et très riche pour la région.
Monsieur Torres, pouvez-vous nous parler de la stratégie que vous utilisez pour atteindre ces différents objectifs?
Notre stratégie est de ne offrir que des actions dans lesquelles nous avons un avantage comparatif. Des domaines dans lesquels la MONUSCO est experte, dispose d'une connaissance technique que nous pouvons transmettre à nos collègues du gouvernement. Donc ça veut dire que nous voulons être, si vous voulez, nous spécialiser dans les domaines qui sont propres à la MONUSCO. Par exemple, j'ai nommé la police, mais exactement la justice civile, la justice militaire, donc l'appui aux auditeurs militaires, l'appui au parquet, l'appui à l'administration territoriale, mais nous avons aussi des connaissances en termes de protection de l'enfance, en termes des droits de l'homme, en termes de prévention des violences sexuelles et en termes d'affaires politiques en général. Donc ce sera dans ce domaine-là que nous offrons, depuis plusieurs mois déjà, nos experts, nos techniciens qui accompagnent de façon physique, sur le terrain, sur place, les agents de l'État. Donc c'est un processus d'assistance technique, de mentorat, de coaching, de soutien de façon très concrète. Comment aider nos collègues à mener à bien leurs tâches au jour le jour.
Gouverneur Julien Paluku, je rappelle que vous êtes gouverneur de la province du Nord Kivu, îlot des stabilités. Comment vous analysez cette démarche, vous, en tant que autorité numéro un, n'est-ce pas, de cette province, de l'une des provinces concernées par cette démarche îlot des stabilités?
Oui, je vais commencer par saluer M. Ray Torres ainsi que l'honorable Jazo Luneno. Je crois que nous devons nous réjouir aujourd'hui lorsque nous commençons à parler en termes d'îlot de stabilité. Parce que comme vous l'avez dit en introduction, il y a quelques temps, il était difficile de parler de stabilité parce que c'était des crédits de balles. Alors, lorsque on parle d'îlot de stabilité, il faut comprendre que c'est une démarche participative qui voudrait recréer la confiance dans les zones qui étaient jadis tenues par les rebelles, qui voudrait recréer la cohésion, qui voudrait permettre effectivement que, à la suite d'une stabilité qui s'installe, on puisse maintenant attirer les agences du système des Nations Unies, les ONG, les investisseurs à considérer qu'il est désormais possible de poser des actions de développement. Donc le terme îlot de stabilité est un terme précurseur à l'avènement du développement. Parce qu'on ne peut pas amener les gens à Rutshuru tant qu'on n'aura pas stabilisé cette partie. On ne peut pas amener les gens à Walikale tant qu'on n'aura pas stabilisé. On ne peut pas amener les gens à Beni tant qu'on n'aura pas stabilisé. Voilà pourquoi la MONUSCO et le gouvernement ont conçu ces concepts pour choisir des zones prioritaires qui devront être stabilisées pour permettre à ce que au moins les populations se redonnent confiance mutuellement à travers la restauration de l'autorité de l'État, la réinstallation des autorités, c'est-à-dire les administrations territoriales, la police, la justice, etc. Et ainsi permettre à ce que toute agence ou tout investisseur qui voudrait bien venir se sente à l'aise dans une zone où il n'a plus peur d'un groupe rebelle ou d'une rébellion qui pourrait s'y installer. C'est le sens que je donne à cet îlot de stabilité que je soutiens fermement avec la MONUSCO parce que c'est une démarche qui est participative.
Oui, monsieur le gouverneur, qu'est-ce qui est fait jusque-là par le gouvernement en termes de rétablissement de la paix, à part le fait d'avoir déployé la police?
Oui, parce que la restauration de l'autorité de l'État en elle-même contient plusieurs activités que le gouvernement a pu faire. C'est d'abord le redéploiement des autorités territoriales, le redéploiement de la police, le redéploiement de la justice, parce que ce sont ces outils-là, ces instruments régaliens de l'État qui redonnent confiance à la population. Vous imaginez une zone qui était tenue par des rebelles, prenons les M23 ou tel groupe, et que l'État congolais n'y déploie plus les autorités territoriales ou la police ou l'armée ou la justice, qui peut y venir la population, tout comme ONG ou agence. Donc c'est que l'État a estimé que parmi les premières stratégies à faire, c'est de pouvoir restaurer cette autorité-là pour permettre à ce que et les réfugiés et les déplacés internes, les gens se sentent libres de revenir. C'est la raison pour laquelle aujourd'hui, par exemple, à Rutshuru, on commence à voir l'arrivée de plusieurs dizaines de milliers de nos compatriotes qui étaient dans les camps en Ouganda. Il y en a qui étaient au Rwanda qui viennent par petites vagues. Donc c'est cette assurance-là qui a été créée par le gouvernement avec la MONUSCO qui permet à ce qu'effectivement on assiste à la stabilité et qu'on parle d'îlot de stabilité. Et aussitôt que cette îlot de stabilité sera vécu ainsi par tout le monde, ça va avoir un effet attractif
de beaucoup d'autres acteurs pour que l'on relance définitivement le développement dans les zones qui étaient jadis contrôlées par les rebelles.
Monsieur le gouverneur Donald Madimba, notre envoyé spécial, vous l'avez suivi, il a affirmé que l'intégralité, n'est-ce pas, de l'autorité de l'État doit encore être consolidée, notamment à Rutshuru et à Walikale. Quelles sont les difficultés contre lesquelles le gouvernement congolais est buté aujourd'hui pour consolider cette autorité de l'État?
Oui, j'ai bien suivi les reportages de Donald Madimba qui nous avons été effectivement à Rutshuru. Les difficultés sont multiples. Je le dis souvent, il n'y a jamais eu un pays ou un État avec un taux de criminalité zéro. Ce qui est vrai, c'est qu'on a évacué les groupes armés dans Rutshuru, dans Masisi, dans Beni, mais ces groupes armés ont eu des liens avec quelques populations locales. Donc le défi qui reste à relever, c'est effectivement de briser définitivement les liens qui ont existé entre les populations et ces mouvements rebelles. Et c'est ça que nous sommes en train de dire à la population. Et la preuve, c'est qu'il y a une semaine, nous venons d'attraper des infiltrés dans les Masisi grâce à la complicité entre les populations et nos forces de défense, c'est-à-dire la police et l'armée. Désormais, la population a compris qu'elle ne peut plus tolérer qu'un groupe vienne s'installer dans une localité et commencer une rébellion parce qu'elle en connaît les conséquences. Donc, les grands défis, les grandes difficultés que nous avons actuellement, c'est notamment de devoir briser ces liens qui existaient entre les groupes armés et certaines populations locales. Le deuxième défi, c'est effectivement de réhabiliter toutes les infrastructures qui ont été détruites. Il y a les écoles, il y a les centres de santé, il y a les routes. Maintenant que les populations rentrent chez elles, nous sommes dans l'obligation d'ouvrir toutes les voies routières qui mènent vers les grands milieux ruraux d'où proviennent beaucoup de produits agricoles vers les grands centres de consommation. Donc voilà autant de défis auxquels nous faisons face et nous y sommes déjà, et à la grande satisfaction de la population du Nord Kivu.
Monsieur le gouverneur, à combien est estimé le budget global pour, n'est-ce pas, relever ces défis que vous venez d'évoquer?
Oui, le budget qui avait été soumis au gouvernement central en décembre 2013 était évalué à 20 millions de dollars. C'était un budget d'urgence pour essayer un peu de parer au plus pressé. Et jusqu'aujourd'hui, ce budget n'a jamais été revu. Nous l'avons maintenu ainsi. Et donc, un minimum de 20 millions de dollars permettrait d'abord de devoir affronter les premiers problèmes. Mais comme vous le savez, il n'y a pas que des questions de relance économique. Il y a des questions humanitaires, il y a des questions de réinsertion. Si on doit prendre l'ensemble du budget global pour essayer un peu de toucher toutes les questions du nord au sud, de l'est à l'ouest, sur l'ensemble de la province du Nord Kivu, eh bien, nous avons fait un scénario de près de 150 millions de dollars pour espérer au moins rencontrer les préoccupations de nos populations qui sont restées longtemps en dehors de leurs zones d'habitation.
Jason Luneno, je rappelle que vous êtes député national élu de la ville de Goma, au Nord Kivu, et cadre du parti politique Union pour la Nation Congolaise, UNC en sigle. Vous avez fait partie de la caravane de paix dans cette province. Quels sont les territoires que vous avez visités lors de cette caravane de paix?
Je pense que je dois dire d'abord bonsoir au gouverneur de province et à notre ami de la MONUSCO qui s'occupe des affaires politiques. Moi, j'étais à Goma, j'ai eu le privilège de parcourir les territoires de Nyiragongo et celui de Rutshuru. J'étais au contact avec la population dans ce coin que j'ai eu le privilège de rencontrer. Je pense aussi que par rapport à ce qui est dit, effectivement, il y a dans les territoires de Nyiragongo et de Rutshuru, ainsi que dans la ville de Goma, la nécessité de travailler sur certains axes qui sont encore en train de mettre en péril le processus qui est en cours, celui de nettoyer la province du Nord Kivu de tout les malfrats, de tous les acteurs qui sont en train de déstabiliser cette partie du pays. Je voudrais ici dire que l'Est de notre pays est à l'attente vraiment de l'avènement des zones qui ont un caractère et qui ont un jugement. Aujourd'hui, nous avons besoin d'influencer la société à évoluer vers les triomphes sur les situations dévastatrices qui rongent nos communautés. Nous avons besoin donc besoin des acteurs qui se battent jour et nuit pour mettre fin à la haine, aux divisions, à toutes ces tueries, aux viols, à toutes ces guerres et à toutes ces rébellions. J'estime que ce qui est fait actuellement en désignant Rutshuru comme îlot de paix, c'est une très bonne chose, c'est une bonne initiative. Mais je me dis, est-ce que cette proposition, ce projet du moins, est au moins accepté par tout le monde et les structurer, elle va évoluer comment, dans la mesure où j'entends que c'est le gouverneur de Provence avec la MONUSCO qui sont en train de se battre pour aller animer la population à s'approprier les processus de paix. Je pense que il faut sincèrement des politiques solides qui tiennent compte de ce que la population veut avoir. La population n'a pas besoin tout simplement des visites, la population a besoin des actions qui prouvent à suffisance que nous sommes en train vraiment de mettre des actions qui permettent à ce que la paix soit retrouvée, des actions à ce que la sécurité publique soit maîtrisée, des actions à ce que les infrastructures routières soient visibles, des actions à ce que la population remarque qu'il y a effectivement des armes qui sont en train d'être ramassées et que les personnes qui sont en train de déstabiliser la population actuellement, parce qu'il y a un problème d'insécurité publique à Rutshuru, à Goma, mais aussi Walikale. Moi, je sais pourquoi Walikale a été même désigné comme îlot de paix, parce que j'ai été élu à Goma, mais je suis originaire de Walikale. Je connais comment les groupes armés sont encore actifs dans les territoires de Walikale et comment ce territoire a encore des milliers de déplacés qui n'ont pas encore la possibilité de retourner dans leur village. Donc ici, j'ai vraiment pitié à notre gouverneur qui pense qu'il peut mettre des îlots de paix alors que les moyens ne peuvent pas ou bien ne pourront pas suivre. Lorsqu'il n'y a pas le suivi de toutes ces initiatives, la population va se décourager. Et souvent, vous allez remarquer que ce sont nos partenaires extérieurs qui prennent les devants sur le gouvernement. Où est le gouvernement qui est censé avoir des initiatives ou bien prendre des initiatives pour cimenter réellement la paix là où il y avait la guerre? Donc, j'aurais estimé que des questions de sécurité publique, des infrastructures, parce que partout on réclamait qu'on réhabilite les routes, qu'on déploie des policiers. Moi, j'ai parcouru presque tout un trajet. Je ne voyais pas des policiers qui étaient juste avec la population, mais la police est venue de Rutshuru, de Kiwanja, qui nous a accompagnés jusqu'à Bunagana. Et nous sommes rentrés encore avec la même police qui nous a accompagnés jusqu'à Goma. Mais est-ce que Walikale, vous allez me rassurer qu'il y a des policiers un peu presque partout? Est-ce qu'on est en train de ramasser les armes? Moi, je pense que le défi est énorme. La difficulté, c'est que le gouvernement ne doit pas suivre les initiatives qui sont montées par-ci, par-là, par les partenaires extérieurs tels que la MONUSCO. Mais j'aurais souhaité qu'il y ait une forte volonté du gouvernement à se rapprocher beaucoup plus des zones qui sont dégagées des groupes armés, prendre langue et contact avec la population et définir des politiques urgentes, des actions humanitaires afin de relever les défis. Je pense que nous avons des problèmes actuellement. Ces îlots de paix ne peuvent rien faire aujourd'hui parce qu'ils vont se buter à un problème sérieux de moyens.
Merci, Monsieur Raï Torres. Goma, Walikale, Kiwanja, Manono et Beni sont désignés comme étant des îlots de stabilité. Peut-on parler de la stabilité lorsque l'on évoque les territoires tels que Walikale, où vous venez de suivre le député Jason Luneno? Est-ce qu'on peut parler de la stabilité quand on parle de Walikale où sévissent les Mai Mai Tcheka? C'est vrai qu'aujourd'hui Tcheka est affaibli, mais il y a les Mai Mai Raia Mutumbukei, il y a les Mai Mai Raia Mkombozi, il y a aussi l'APCLS. Peut-on parler stabilité dans ces cas?
Je pense que c'est un point très important. Lorsqu'on parle de l'îlot de stabilité de Walikale, on parle des zones qui ont été libérées des groupes armés. Et comme vous savez, il y a en ce moment même en cours des opérations très importantes des FRDC contre les Mamai, contre MDC, Tcheka et contre d'autres groupes Et dès que ces zones-là, au fur et à mesure que des zones sont libérées, donc on peut parler de îlots de stabilité qui sont des endroits où on veut justement renforcer la stabilité. Mais il est évident que si la zone est encore sous occupation d'un groupe rebelle, la réponse est dans la question. Bien sûr que non. Moi, je pense qu'il est très important de souligner ce que le député a dit, parce que c'est correct qu'il faut que des moyens soient mis en œuvre. Mais ces moyens à mettre en œuvre ne sont pas le fait du gouvernement uniquement. Je pense que c'est très important que de comprendre que la relance de la restauration de l'autorité de l'État, mais la relance de la vie, de la normalité de la vie dans une zone comme ça, doit être le fait de toutes les forces vives de la localité. Et je suis certain que le député sera utilisé de son pouvoir de conviction pour aider à justement débloquer des fonds qui vont par la suite pourront être investis dans cette zone de Wali-Calais. Mais pour vous donner un exemple de comment ce genre de relance peut se faire. Je vais vous parler de Pinga, qui est aussi à Wali-Calais, en fait, à la limite entre Wali-Calais et le territoire du Massissi. L'exemple que j'ai en tête, c'est que depuis la libération par la FARDC, avec l'appui de la MONUSCO, de ce village de Wali-Calais, il y avait, lorsque les opérations militaires ont eu lieu, 4000 personnes qui étaient restées à Wali-Calais, à Pinga. Aujourd'hui, il y en a 24 000. Et pour vous donner une idée de l'initiative qui peut être prise, et qui n'est pas nécessairement le fait d'un agent de l'État, figurez-vous que à l'initiative du commandant de l'unité FARDC, il a pris contact avec une compagnie de téléphone et a réussi à les convaincre de placer une antenne de téléphone. Ça a désenclavé immédiatement Pinga et les environs. Ça a aidé à la relance, a contribué de façon très effective à la relance. Donc je veux juste souligner que oui, il faut une action du gouvernement. Oui, il faut que des budgets soient débloqués, mais il faut l'appui, l'apport de tout le monde. Je pense que c'est un îlot de stabilité, c'est l'exemple d'un endroit, d'un moment dans l'histoire du territoire où nous devrions être capables de passer au-delà des différences politiques entre les différentes tendances et les différents partis pour se concentrer sur ce dont a besoin la population. Je suis sûr, et c'est ce que j'observe, que c'est déjà en cours.
Monsieur Dorès, nous allons prendre pour vous cette réaction qui vient de Kinshasa.
Maurice Mouyana, nous, depuis la province, ville de Kinshasa. Je salue les efforts qui sont consentis par la communauté internationale en vue de stabiliser les territoires jadis occupés par le M23. Cependant, au regard de la signature d'un accord de paix à Nairobi entre le gouvernement congolais et le M23, sanctionnant la fin de la guerre qui est malheureusement aujourd'hui en souffrance d'application, quelles garanties temporelles accordez-vous à cette stabilité face à l'imminence d'une reprise des hostilités par les ex-M23 qui revendiquent urbi et orbi comme par le passé le non-respect des accords? Ne pensez-vous pas que cette stabilité, in fine, soit éphémère?
Monsieur Torres, hein?
Moi, je pense que le danger d'une reprise des combats, que ce soit le M23, que ce soit d'autres groupes, est quelque chose contre lequel il faut se prémunir. Et la meilleure façon de prévenir ce retour, c'est justement de restaurer l'autorité de l'État, de raffermir les services publics, de relancer l'économie pour montrer aux populations les bénéfices, les dividendes que la paix leur apporte. Quant au cas spécifique du M23, je ne suis pas certain d'être totalement d'accord avec notre auditeur, mais en tout cas, je suis tout à fait d'accord avec lui qu'il faut faire attention. Vous savez, en réalité, c'est quelque chose que la MONUSCO a dit au lendemain de la victoire des FARDC sur les M23. Tant qu'il y aura des armes en circulation, tant qu'il y aura un trafic illégal de minerais, tant que nous n'aurons pas réglé le problème de banditisme, nous sommes exposés à trois types de dangers. Premièrement, que des anciens membres ou des membres d'anciens groupes rebelles décident possible d'essayer de reformer ce groupe. C'est un danger premier. Ça n'a pas besoin d'être quelque chose de très organisé. Ça peut être un groupe de taille très réduite. Deuxième danger, que ces groupes-là essayent de rejoindre un autre groupe. Malgré les efforts consentis, malheureusement, quelqu'un qui a fait 15 ans d'activité criminelle ou rebelle, c'est une reconversion assez difficile à faire. Troisième danger, c'est que cette personne-là ou ces personnes-là décident tout simplement, sans affiliation à un groupe armé spécifique, de se livrer au banditisme, à la criminalité. Mais du point de vue de la maman qui va être agressée, de l'enfant qui va être meurtri, du papa qui va être tué dans son champ, ça ne change rien. Peu importe le mouvement, peu importe l'affiliation supposément idéologique, ce qui est important, c'est que ces gens, les populations civiles continuent d'être exposées à ces dangers-là. Donc c'est pour cela, justement, que en ce moment, il faut mobiliser toutes les possibilités sur le territoire du Nord Kivu pour se prémunir de cela, appuyer les efforts tant des communautés que du gouvernement et des initiatives privées pour raffermir la paix, raffermir la stabilité et de continuer sur quelque chose que son excellence le gouverneur a mentionné, ce sentiment que les groupes rebelles ne sont plus n'ont plus de légitimité au Nord Kivu. Ils ne peuvent plus réclamer, défendre les intérêts de façon directe ou indirecte des populations. Ce sont les populations elles-mêmes, avec le concours, avec l'appui et la présence du gouvernement, qui doivent rétablir l'ordre public sans avoir besoin de recourir à l'illusion de protection que leur offrent ces groupes rebelles.
Merci, monsieur le gouverneur Julien Paluku. Vous avez suivi l'honorable Jason Luneno, qui souhaite qu'il y ait des politiques solides qui tiennent compte des desiderata de population. Il affirme qu'il n'y a pas de suivi par rapport à toutes ces initiatives qui sont prises. C'est plutôt, selon lui, c'est plutôt les partenaires extérieurs qui sont des voix de la scène et on ne voit pas le gouvernement.
Moi, je ne pense pas. Lui a parlé des visites qui sont insuffisantes. Je dois rappeler à l'honorable député que à chaque fois qu'une zone était libérée par nos forces armées, moi, à ma carte de gouverneur, j'y arrivais dans les 24 heures qui suivaient. Je me rappelle, lorsqu'on a libéré Kibumba, j'y suis allé 24 heures après. Lorsqu'on a libéré Kiwanja Rutshuru, je suis arrivé 24 heures après. Lorsqu'on a libéré Tchanzu, je suis arrivé 24 heures après. Et on voyait la liesse de la population de voir leur gouverneur arriver dans une zone où ils étaient sous le joug d'une rébellion pendant une année. Donc, la visite d'une autorité dans une zone libérée constitue un sentiment de réconfort. La visite d'une porteuse d'espoir pour cette population-là. Et je suis heureux que l'honorable député évoque la question des moyens. Et maintenant, dans quelques jours, il y aura la rentrée parlementaire. Et la session de septembre est une session budgétaire. Comme l'honorable évoque la question des moyens, je pense qu'on va le suivre, défendre cette question au niveau de l'Assemblée nationale pour défendre le point de vue du Nord Kivu qui a besoin de moyens pour affronter tous ces défis. Je crois que la balle est plutôt jetée dans son camp, lui qui est l'autorité budgétaire et qui doit donner au gouvernement les moyens. Et je pense que d'ici septembre, nous aurons effectivement ce genre de débat à l'Assemblée nationale pour que le Nord Kivu soit suffisamment doté de moyens par le gouvernement pour devoir affronter les questions de stabilité, les questions de relance économique pour permettre à ce que les populations effectivement vivent autrement dans les zones où aujourd'hui elles sont libérées par le gouvernement alors qu'hier elles étaient sous le joug de la rébellion. Donc je crois que la démarche évoquée par l'honorable député lorsqu'il parle de politiques solides, ces politiques solides effectivement ont besoin de moyens. Et quand il dit le gouvernement est absent, je ne suis pas d'accord. Parce que gouverner signifie les représentants du pouvoir central en province. Donc il n'est pas dit qu'à tout moment, c'est un ministre qui viendrait de Kinshasa pour que nous allions à Walikale, pour que nous allions à Rutshuru, pour que nous allions à Beni, pour qu'on sente que le gouvernement est présent. Le fait pour le gouverneur de piloter l'action au niveau provincial, aux côtés des partenaires, c'est déjà la participation du gouvernement. Il est vrai que la MONUSCO a été invitée par le gouvernement congolais. La lettre S dans la MONUSCO, ça signifie stabilisation. Si la MONUSCO a des initiatives qu'elle est en train de prendre parce qu'elle a été invitée par le gouvernement, on ne peut pas reprocher à la MONUSCO de prendre des initiatives propres à elle parce qu'elle le fait parce qu'invité par le gouvernement en République démocratique du Congo. Et c'est de son devoir de devoir prendre des initiatives là où elle estime qu'elle peut apporter une contribution en appui aux efforts du gouvernement tel que cela est contenu dans tous les textes qui régissent les partenariats entre les Nations Unies et le gouvernement congolais.
Monsieur le gouverneur, nous allons prendre pour vous cette question qui vient de Goma au Nord Kivu.
Jérôme Ouviri, à partir de Goma, province du Nord Kivu. L'important aujourd'hui n'est plus de voir les autorités congolaises ainsi que les hautes personnalités diplomatiques effectuer des promenades dans les zones sorties des guerres. L'essentiel aujourd'hui, c'est de voir les projets de développement durable exécutés, notamment les routes, les centres de santé, les écoles, les adductions d'eau, les activités éducatives et récréatives des jeunes, ainsi que les activités de consolidation de la paix. Sans cela, ces visites des officiels ne seront que des promenades de santé qui bousillent inutilement les ressources publiques.
Monsieur le gouverneur.
Oui, ça c'est un sentiment de quelqu'un qui a vu la guerre perdurer dans la province du Nord Kivu, mais qui ne connaît pas les stratégies qui doivent amener effectivement à pouvoir amorcer les questions de développement. On ne peut pas aller commencer dans une zone des activités de développement sans l'avoir stabilisée. Il faut d'abord qu'on se rassure qu'il n'y a plus de groupes armés, que l'autorité y est revenue, que chacun peut vaquer à ses occupations sans qu'il ne soit troublé. Donc le fait pour l'auditeur de dire on ne veut plus des promenades des gens, c'est comme pour dire on ne peut plus aller évaluer le niveau de la stabilité, de la sécurité qui est revenue dans une zone. C'est demander une chose au contraire. Comment peut-il penser qu'aujourd'hui, comme l'a dit Laurent Bijazou-Neno, on aille à Walikale où Tcheka est encore actif et commence à y tracer la route. On verra demain Tcheka en train de prendre les cantonniers qu'on y a placés et commencer à demander des rançons. Et ainsi, se faire suffisamment d'argent. Donc je crois que ce qui est important actuellement, c'est que l'autorité effectue des visites d'évaluation de la situation sur le terrain, une évaluation qui permet de passer maintenant à l'étape suivante, celle de la relance économique. Et cette évaluation-là s'est faite dans ce qu'on appelle les îlots de stabilité. Une fois ces îlots-là rassurent que tout est revenu à la normale, que la confiance est revenue entre population, forces de sécurité et d'autres partenaires, on peut maintenant inviter les secteurs qui s'occupent du développement, soit des secteurs gouvernementaux, soit des ONG, soit des partenaires, pour qu'on commence à construire les routes, pour construire les hôpitaux, les centres de santé. Donc la démarche qu'il a évoquée, c'est une démarche postérieure à la stabilité des zones qui ont été hier des zones à forte tension ou à coexistence entre rebelles et populations locales.
Honorable Jason Luneno, nous allons prendre pour vous cette question qui vient de Bukavu au sud Kivu.
Robert Baone de Bukavu au sud Kivu. Cette démarche visant à stabiliser ces zones n'est pas en soi mauvaise. Néanmoins, elle ne peut aboutir ou avoir des effets positifs qu'à court terme, tant que dans les autres zones de la RDC règne encore l'instabilité et l'insécurité. Je pense que la meilleure démarche serait donc celle qui se proposerait de stabiliser et de sécuriser toute la RDC.
Honorable, comment vous réagissez par rapport à cette proposition?
Oui, moi je pense que Robert Baume dit la même chose que moi. Je pense que nous avons tous vécu les efforts qui ont été déployés sur le terrain pour mettre fin à l'activisme des groupes armés. J'ai toujours dit que lorsqu'il y a la volonté, effectivement, les réalisations doivent suivre. Moi, je suis effectivement député national, mais chaque fois que nous mettons des moyens à la disposition des entités territoriales décentralisées, à la disposition des provinces, est-ce que ces moyens sont décaissés? Est-ce que toutes les allocations qui sont faites de manière efficiente, de manière telle que nous, on a voté les budgets? Lorsque nous votons les lois budgétaires, nous avons souvent des problèmes de réévaluer effectivement les comptes tels qu'ils ont été libellés et de la manière dont la reddition des comptes a été faite. Donc on a des difficultés par rapport à ça. Nous n'avons pas la possibilité aujourd'hui de dire que l'État est en train de suivre les rythmes qu'est en train d'imprimer la population sur le terrain. Je pense que l'État a une grosse difficulté par rapport à ça et nous devons être beaucoup plus regardants et nous demandons à nos amis qui sont au pouvoir de comprendre que la population aujourd'hui n'a pas besoin seulement de discours. On a besoin des actions concrètes. Et ces actions concrètes doivent être visibles sur le terrain
par des actions, par des initiatives, par des projets qui sont montés par-ci, par-là. Vous n'allez pas me dire que vous allez... Oui ?
Oui, continuez, honorable.
Vous n'allez pas dire que le fait de s'être rendu quelque part après la libération est un élément suffisant pour témoigner que ce milieu-là a été réellement stabilisé. Mais on a besoin maintenant de parler, de discuter, d'évaluer, de définir des actions urgentes pour commencer à mettre cette population au travail. Il faut aussi se rendre compte si au moins le pouvoir local est beaucoup plus proche de la population. Nous voyons un peu presque partout, que ce soit Rutshuru, Nyiragongo, dans Walikale, il y a des questions, il y a des conflits coutumiers, il y a même des chefs coutumiers qui sont absents. Moi, je veux dire ici que la faillite de l'État est totale et que franchement, il faut redresser l'État congolais. Il faut redresser l'État congolais de sorte que nous soyons en mesure de créer des conditions qui soient en mesure donc de stabiliser notre pays et créer la croissance dans plusieurs domaines. Parce que nous avons des possibilités de sortir notre pays du bourbier dans lequel il est actuellement. Les îlots de paix, il faut réfléchir sur ces îlots de paix. On ne va pas réfléchir sur un îlot de paix et pour s'y rendre, il faut nécessairement être déployé par la MONUSCO. Non, nous devons être en mesure de commencer à réouvrir les routes. Même si on dit aujourd'hui que il y a Cheka qui est encore suspéré, il y a cela. Mais il y a des initiatives qui doivent être faites. Et si elles sont faites au niveau de la base, il faut que le pouvoir central puisse renforcer ce qui est fait. Mais si le pouvoir central doit décourager ce qui est fait au niveau des provinces, ou bien si la province doit toujours attendre que le pouvoir central donne le moyen,
honorable,
moi je continue à dire oui.
Oui, vous avez suivi M. Rey Torres qui pense que pour que cette démarche aboutisse, il faut la participation de tout le monde. Hein. Et le gouverneur a dit que, étant donné que vous êtes député national et qu'au mois de septembre, il y a une session budgétaire, il espère que vous allez défendre les budgets pour que cette initiative puisse aboutir. Ça sera votre conclusion.
Nous, notre mission, c'est de donner les moyens. Mais il faut que le gouvernement présente des bonnes politiques qui puissent accompagner effectivement et renforcer ces îlots de paix sur terrain. Lorsqu'on va voter ce budget, nous avons besoin que ce budget qui est voté soit exécuté de la manière dont il est voté par le Parlement. Mais cela n'a jamais eu lieu. Aucun budget que nous votons avec toutes les allocations que nous donnons aux différents services n'ont jamais été respectés. Ce n'est pas décaissé de la manière dont les parlementaires, bien les représentants du peuple que nous sommes, nous votons cela, on exécute les budgets au gré de celui qui décaisse les fonds. Et quand est-ce qu'on va commencer à faire des programmes qui puissent amener ce pays à décoller?
Merci, honorable.
C'est difficile.
Merci, honorable. Monsieur Rey Torres, nous sommes presque à la fin de l'émission. Je vais vous demander de conclure. Que faut-il faire pour étendre ces îlots de stabilité à travers toute la partie est de la RDC?
Je pense qu'il faut continuer dans la même lignée, une conjonction d'actions d'ordre public et de reconstruction, de développement. Je voudrais juste signaler que le gouvernement au niveau national, mais aussi au niveau provincial, a dès le début, et je pense qu'on aurait peut-être, j'aurais peut-être dû le mentionner dès le début, a lancé une initiative très importante d'identification de besoins à travers toute la province du Nord Kivu, dans toutes les localités qui ont été libérées de la présence des groupes armés. Ça, c'est très important parce que sur la base de ces évaluations vont être préparés et soumis des projets de développement très importants. C'est dans le cadre de ce qu'on appelle STAREC, hein, cet organisme du gouvernement. Je terminerai par dire que la paix est très difficile à faire. Et je pense même qu'elle est beaucoup plus difficile à faire que la guerre.
Merci, monsieur le gouverneur. Julien Paluku, votre conclusion.
Oui, je crois qu'il faut comprendre bien la différence entre la stabilité et le développement. Avant de développer une entité, on doit d'abord la stabiliser. Et la démarche que nous sommes en train de faire, c'est celle-là. Comment identifier les besoins, comment élaborer les plans, comment penser les exécuter dans une synergie entre le gouvernement,
merci,
les Nations Unies et toutes les agences de développement. C'est ça la...
Merci, c'est la fin de cette émission. Merci à toute l'équipe qui m'a aidé à préparé cette émission sous la supervision de Martin Sebujangwe. Merci à Kelly, à Samuel Kachak et à Jean-Noël Mokondo. Devant ces micros, Guy Maté, merci et bon suivi de programme sur Radio Okapi.